Orange, engagée dans la transformation numérique des territoires, est partenaire du podcast 7 minutes avec un maire.
Bienvenue sur 7 minutes avec un maire, le podcast de RCL, la revue des collectivités locales. Bonne écoute.
RCL reçoit aujourd'hui Florian Bercot, maire de Laval en Mayenne. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour et merci de votre invitation.
Je vous en prie. Alors, pour mieux associer les Lavalloises et les Lavallois à la construction du budget de la ville, l'équipe municipale a mis en place des ateliers budgétaires citoyens. Pouvez-vous nous parler de cette initiative ?
Oui, effectivement, les finances à Laval, ça a toujours été un débat assez houleux, puisque la ville a quelques difficultés financières héritées du passé, avec beaucoup d'équipements à entretenir, et puis elle a connu des emprunts toxiques. Donc, pour essayer d'apaiser les débats, mon adjoint en finance, Antoine Caplan, a proposé une idée, justement, pour les dépassionner, les objectiver et permettre aux citoyens de s'y retrouver. Donc, c'est des ateliers budgétaires en amont de la construction budgétaire pour essayer de décrypter le volet recettes, qu'est-ce que la collectivité a comme gain, et puis le volet dépenses en essayant d'analyser les marges de manœuvre. Et ça fonctionne. Alors, on a nos habitudes, ces ateliers budgétaires. On le fait généralement en plusieurs phases. Une phase vraiment explication pédagogie, une phase plus construction pour bien comprendre voilà à quoi sert l'impôt, quelles sont les contraintes sur la ville de Laval. Et on va même plus loin. C'est que nous avons développé des budgets participatifs. Donc, un budget participatif dédié à la ville en 2021 avec 400 000 euros qui a permis de financer une vingtaine de projets sur une thématique cadre de vie. Et en 2022, là, nous sommes en train de réaliser un budget participatif spécial jeune, dédié à la jeunesse de 12 à 25 ans pour engager ces jeunes et leur dire que on leur donne une voix, on leur donne une capacité à choisir des projets et co-décider des projets finalement avec la municipalité. Donc voilà, c'est une démarche véritablement globale pour rendre les finances plus transparentes et réintéresser le citoyen à la chose publique.
D'accord. Alors Laval, c'est aussi la ville française qui accueille l'un des plus grands festivals de réalité virtuelle. Quel est l'impact en termes d'attractivité d'un tel événement ?
Oui, alors Laval Virtual et puis son pendant culturel qui est Recto Verso, qui est le dernier né, c'est presque un quart de siècle d'histoire à Laval d'avoir fait ce pari que on pouvait être le berceau d'un écosystème numérique dédié aux réalités augmentées, réalités virtuelles. Et je crois que l'actualité ne dément pas l'importance de ces technologies, puisque le numérique rentre dans nos vies, et notamment on a vu apparaître les mondes virtuels ces dernières années. Et donc chaque année, il y a un grand festival qui rassemble énormément d'acteurs du monde entier, et même qui s'exporte à Amsterdam, en Chine. Et donc voilà, c'est un motif de fierté, de rayonnement international. Et évidemment, derrière ce festival, c'est tout un écosystème qui fonctionne bien pour continuer à innover, permettre à nos entreprises, mais aussi nos administrations d'innover avec une technopole qui héberge notamment un incubateur, et puis Clarté, qui est une association qui vise à diffuser des technologies émergentes et donc qui a à sa disposition finalement des techniciens qui peuvent porter des projets et accompagner les entreprises et les administrations. Donc c'est un vrai motif de fierté. Effectivement, c'est un événement important qui fait rayonner Laval bien au-delà de ses frontières mayennaises.
D'accord. Et quelle est la place du numérique dans vos politiques publiques ?
Alors le numérique, c'est un médium, c'est un moyen qui vient finalement être rentré dans la palette des outils au service d'administration, au service des citoyens, plus qu'une finalité en soi. Donc c'est d'abord une histoire d'infrastructure, Laval agglomération, puis la Mayenne, ça a été une des premiers territoires à être fibré. Donc c'est vrai que c'est un atout considérable pour nos habitants, mais aussi pour attirer des entreprises. Il y a toujours un enjeu sur le numérique, un défi, c'est de lutter contre la fracture numérique. Donc nous, on a développé des médiateurs numériques. On a aussi une association d'insertion, le GLEAM, qui, par des conventions avec des entreprises comme Enedis, font de la médiation numérique pour les personnes très, 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 très éloignées du numérique. Et puis, il y a le numérique au quotidien, finalement, qu'on essaie de développer pour faciliter l'accès à nos services, que ce soit les services de communication, pour être bien informés, ou les services aux familles. Donc nous, à notre arrivée en fonction il y a 2 ans, on a redéveloppé un portail famille 100% dématérialisé permettent de faciliter les démarches pour l'inscription dans les temps périscolaires, pour la cantine. Ça me paraît être des choses vraiment essentielles et transformer la relation, faciliter la relation entre l'administration et le citoyen. Et puis d'ailleurs, demain, j'aimerais même faciliter la relation entre les élus et les citoyens à travers des outils numériques.
D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que la biodiversité dans la ville était aussi un axe majeur du projet municipal. Quelles sont vos actions en la matière ?
Moi, j'aime à dire qu'on a un mandat pour penser la ville. Alors, vous vous écrirez penser comme vous souhaitez, soit avec un E, soit avec un A. Mais en tout cas, on a véritablement besoin d'anticiper les impacts du réchauffement climatique pour pouvoir s'adapter et puis éviter les agréments, voire lutter contre ce réchauffement climatique. Mais on a aussi un mandat pour penser au sens avec un A, pour la réparer cette ville, pour la refaire sur elle-même. Et donc pour ça, il faut lui donner, la renaturer, la désimperméabiliser, permettre à la nature de trouver sa pleine place, qui apporte énormément d'attributs aux habitants et une qualité de vie importante. Donc pour ça, on a différents outils. On a mis en place un permis de végétaliser, puisque c'était une demande de certaines écoles, de certains habitants, certaines entreprises. Donc on débitume certaines parties de l'espace public pour permettre à certains de végétaliser. On est en train de développer une charte de l'urbanisme durable pour inviter tous ceux qui construisent la ville, qui veulent refaire la ville, les bailleurs, les promoteurs, de s'inscrire justement dans une préservation de la biodiversité, même dans une amélioration de la place de la nature. Évidemment, on désimperméabilise dès que possible. Donc, on refait la place centrale, qui est la place du 11 novembre, où là, on va désimperméabiliser 80% parce qu'on va déplacer 200 places de stationnement. Le long des quais, on essaye de désimperméabiliser en fonction des points chauds. En fait, on essaye de repérer ce que seront les îlots de chaleur dans 10, 15, 20 ans. Et donc, en fonction de ça, on essaie de remettre de la nature. On réouvre des jardins publics, notamment au 40 ou au jardin de la Banque de France. Voilà, c'est toute une démarche avec une palette d'outils importante et un indicateur qui est suivi à travers le budget vert qu'on a installé vraiment pour suivre ces objectifs de biodiversité.
Alors, une dernière question, monsieur le maire. La question du pouvoir d'achat qui est aujourd'hui au cœur de toutes les attentions. Que peut faire le maire pour préserver justement le pouvoir d'achat des habitants ?
Le pouvoir d'achat, c'est l'affaire de tous, hein, évidemment. Et donc, en tant que mairie, on peut déjà agir sur la tarification. Donc, avec une tarification solidaire. C'est ce que nous avons mis en place dès le début, avec la cantine à 1 euro pour les personnes les plus défavorisées. On voit que ça fonctionne. On a un retour de famille, notamment dans des quartiers plus populaires, qui remettent leurs enfants dans les cantines. On a mis, par exemple, la piscine à 1 euro pour les moins de 25 ans. Là aussi, pour favoriser les jeunes, l'occupation des jeunes, notamment sur la période estivale. Et puis, nous sommes en train de retravailler sur une reprise en régie de nombreux services, notamment le stationnement. On a une piscine qui était en délégation de service public qui s'appelle l'Aquabulle, sur lequel on va le remettre dans le giron davantage public, en tout cas via la régie, qui va nous permettre d'avoir la main sur les tarifs et avoir des tarifs plus sociaux, en tout cas plus raisonnables pour certaines personnes. Et puis un acte fort, ça a été la gratuité des transports publics le week-end et les jours fériés. Ça, c'était quelque chose d'important pour recréer là aussi à la fois du pouvoir d'achat, mais aussi changer les pratiques face au transport public. On pourrait citer aussi quelque chose d'innovant qu'on a mené avec la Banque des Territoires pendant la crise sanitaire pour faire revenir les Lavallois dans leur commerce de proximité. On a lancé des tickets commerçants. Pour 25 euros d'achat, vous aviez 5 euros finalement offerts, donnés par la collectivité pour soutenir le pouvoir d'achat et pour inviter à revenir dans le commerce de centre-ville, le commerce de bourg, de centre-bourg, parce que c'était à l'échelle de l'agglomération. C'était autant de mesures qui ont bien fonctionné. Et puis, on a un centre communal d'action sociale dont on a renforcé les moyens pour aider aux plus démunis, voilà, aider au permis de conduire pour les jeunes les plus défavorisés, maintenir des tarifs acceptables dans nos EHPAD. Et puis, évidemment, le dernier volet qui paraît important sur le pouvoir d'achat, sur lequel on a un levier, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, on a un gros plan de rénovation, notamment dans nos quartiers prioritaires et avec nos bailleurs, pour permettre, et on l'a vu, hein, ça a permis à certains de payer beaucoup moins cher d'électricité, donc de se prémunir de ces hausses d'électricité, c'est en mieux isolant nos logements. Donc, on a un énorme plan de rénovation chez nos bailleurs, Et puis généralement, ils sont alimentés par un réseau de chaleur qui normalement devrait permettre de limiter les coûts à venir. Voilà, autant de mesures. Enfin, il y a encore plein de choses à dire évidemment sur ce pouvoir d'achat, mais on a des mesures. Moi, ce que je dis, c'est attention, il faudra aussi accompagner les collectivités qui ont un rôle majeur dans les transitions et dans le soutien au pouvoir d'achat. Il ne faudra peut-être pas trop nous en demander en termes d'économie, parce qu'on est vraiment le fer de lance de soutien au pouvoir d'achat en proximité. Voilà, si on pouvait m'entendre, je serais très heureux de ça.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous souhaite une très bonne journée.